Bonjour, merci d'être ici. La plupart, je pense qu'on se connaît, mais je suis Mathias Batiston. Je suis un traducteur argentin. Je vais vous parler un peu d'un projet auquel je travaille depuis longtemps. C'est ma traduction de la trilogie de Beckett vers l'espagnol. La trilogie de Beckett, c'est peut-être le sommet de son œuvre romanesque. Il s'agit de trois romans qu'il ne considérait pas comme une trilogie, mais qui est devenue en trilogie après coup. Il appelait ça les trois romans, tout court. C'est son Mal-Homme et l'Innommable. Il a rédigé les textes à la fin des années 40 en français, et les textes sont publiés au début des années 50, et après, il les a traduits lui-même en anglais. Et l'enjeu pour moi, c'était comme traducteur de travailler avec une œuvre qui a deux textes. Parce qu'on a Molloy, par exemple, mais Molloy, c'est le texte en français et les textes en anglais. Chaque fois qu'il traduisait les textes, il modifiait les textes. Pour lui, la traduction, c'était soi-même, c'était une activité déchirante. La plupart des choses étaient des choses déchirantes pour Beckett, mais la traduction spécialement, c'était chose terrible. Au début, il a eu l'idée de demander à Patrick Bowles, qui était un écrivain anglais, de traduire Molloy. Mais il n'a pas pu résister à la tentation de le faire lui-même, donc il a presque arraché le projet de la main des mains de Patrick Bowles. Et après, il a traduit lui-même Mal-Homme et l'Innommable. Et on peut voir dans sa correspondance qui vient d'être publiée la démarche, le processus de traduction. Ça commence assez innocemment, si on prend le cas de l'Innommable. Le 4 janvier 1956, il dit « Maintenant, je suis face à l'Innommable. Ici, je trouve, encore une fois, que la solution la plus simple serait de le traduire moi-même. » Deux mois après, mars, il dit « Mon Dieu, comment je déteste ma propre œuvre. J'ai commencé la tâche impossible de traduire l'Innommable. J'y ai renoncé l'autre jour avec répugnance. » Juillet, il dit « Je devrais être en train de traduire l'Innommable. C'est un travail impossible. » Septembre, à propos de sa traduction de l'Innommable. Torture. Et rien de bon ne peut en sortir. Décembre, j'essaie de traduire l'Innommable, épouvantablement difficile. Je n'y arriverai jamais. Du coup, il avait écrit le livre, l'Innommable, l'original, en 9 mois. Ça lui prend 2 ans de traduire l'Innommable à l'anglais. En fait, il fait la plupart de travail dans 2 mois et demi, 3 mois, de novembre 1957 à février 1958. Mais tout le temps, il est en train de réfléchir, il ne lâche prise jamais, il pense à l'Innommable, à sa traduction, mais il n'arrive jamais à trouver l'impulse. Jusqu'à ce dernier moment, ces 2 mois, à la fin. Mais ça fait, au total, ça fait presque 200. Alors quand on parle des traductions de Beckett, des traductions beckettiennes, on dit toujours qu'il y a des changements, mais il faut voir exactement qu'est-ce qui change. Le système de modification, la constellation de variations, des variantes. Et par exemple, si on prend l'innommable aussi, d'emblée, ça commence d'une autre manière. L'innommable, c'est un roman où il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de personnage, il n'y a pas vraiment d'action. Et le roman commence par une série d'incertitudes. Il commence par 3 questions, c'est où maintenant, quand maintenant, qui maintenant. Mais en anglais, ça devient where now, who now, when now. So where now, who now, when now. Donc, d'où, quand, qui devient où, qui, quand. Pourquoi ce déplacement de questions? C'est impossible de savoir, c'est un mystère. Il n'a jamais dit pourquoi, il ne s'est jamais expliqué. Ce qu'on a, c'est ce déplacement qui est là. Donc, il n'y a pas de réponse, il y a simplement la variante. Il y avait son mission, dans l'innommable en français, le protagoniste avait des amis. Il dit, mes amis, car moi aussi, j'ai des amis quelque part, je les sens, par moment. Cela disparaît totalement de The Unnameable. La version en anglais, dans la version en anglais, l'innommable n'a même pas des amis par moment. La phrase disparaît. Il y a plusieurs phrases qui disparaissent. Il y a des expressions qu'il traduit, c'est-à-dire qu'il ne les omet pas, mais il les change. C'est une approche irlandaise. Il emploie des expressions qui sont de l'anglais irlandais, parfois d'une manière presque farfelue, parfois d'une manière extrême. Par exemple, les tons changent. Il y a un instant où il parle de l'innommable, il parle de toutes ces histoires. Ça devient en anglais. All these balls about being and existing. L'avenir, en anglais, devient the Scytheman, ce qui est la grande faucheuse. Donc, on parle de l'avenir, et après on parle de l'incarnation de la mort. Ce n'est pas si bien. La rue de la gaieté, qui est une référence, il dit en pleine rue de la, en pleine rue de la gaieté, évidemment, c'est une rue qui existe, c'est en majuscule, donc il parle de l'allusion de la rue et pas de la gaieté soi-même. Il traduit ça comme in all the fun of the fair. Donc il prend le gaieté, mais c'est pas seulement des fans, mais c'est all the fun of the fair. Pourquoi exactement? C'est une décision à lui. En fait, il parle avec Richard Seaver, qui est un traducteur anglais, qui a traduit quelques-uns de ses textes en français vers l'anglais. Après, Beckett les a corrigés, les a révisés, les a changés. Il lui a expliqué, ne t'en fais pas si je change des choses, tu verras qu'il y a des modifications qui sont difficiles à comprendre, mais ça, ce sont des détails, ça c'est aussi la licence de l'auteur. Donc, il traduit comme auteur, pas seulement comme traducteur. Mais il a même pensé à changer le titre. L'innommable aurait été Beyond Words, au-delà des mots, au-delà des paroles. La majorité des traductions vers l'espagnol, en fait vers n'importe quelle langue, ne parle pas de ça. Il n'y a pas d'information, on n'a qu'une version, la plupart du temps traduit du français. Okay. Encore une fois, la plupart du temps, c'était la première version, mais ignore le fait que la version en anglais existe. Il n'y a pas un essai quelconque de rendre compte des changements, de montrer qu'il y a plus d'une version, de montrer que l'œuvre, en fait, c'est double, c'est une œuvre double. Entre les critiques, il y a des politiques, des controverses. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre double? Est-ce que ça, ce sont des traductions? Est-ce que les différences sont dues au génie de la langue, par exemple? On a dit que c'est le génie de la langue et aussi l'inconscient de Beckett. Donc on a analysé les versions en anglais, on dit que l'anglais c'est un peu plus obscur, c'est plus local, parce que Beckett revient, il revisite son enfance, comme on dit en anglais. Et ce sont des théories. Et quand même c'est difficile d'expliquer quelques changements extrêmes qu'il fait en disant que c'est le génie de la langue, en disant que c'est l'inconscient beckettien. Federman, qui était un ami à lui, est un critique aussi, un écrivain, qui a aussi changé de langue, dit qu'il ne s'agit en fait pas des traductions, ce ne sont pas des substituts, ce n'est pas que la traduction peut remplacer l'original, en fait ce sont des compléments. Il parle de textes jumeaux. Il y a deux textes qui, comme des jumeaux, sont pareils, mais ce ne sont pas exactement identiques. Il y a des changements, il y a une certaine indépendance, mais quand même, il y a une liaison entre les deux, qui n'est pas évident. Donc, l'œuvre serait un peu entre les deux textes. Pas un texte, pas l'autre, mais entre les deux. Donc, l'enjeu ici serait comme traducteur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? comment est-ce qu'on pourrait rendre compte de cette différence, de cette variation. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est un projet qu'on m'a donné en 2016. J'ai signé un contrat avec une maison d'édition en Argentine qui s'appelle Édition Hérodote, qui à la fois, ils ont signé un contrat avec Édition Minuit, qui avait les droits de la version en français. En français, donc, du coup, j'étais censé traduire la version française. C'est ça ce que j'ai fait. J'ai traduit la version en français avec l'anglais, comme sorte d'interprétation autorisée. On dit, c'est Elmar Tophaven, qui est le traducteur allemand, qui dit ça, qui est de l'anglais, ou la traduction, l'autotraduction de Beckett, c'est une sorte d'interprétation autorisée. C'est l'auteur même qui a signé ça. Je n'ai pas fait quelque chose d'expérimental, mais j'ai commencé à fur et à mesure à penser à des choses qu'on pourrait faire, des différentes manières qui restent potentielles, mais qui, quand même, je pense qu'elles méritent d'être explorées. Donc, ce que je vais faire, c'est de dénombrer, d'inventorier, d'énumérer de différentes manières, méthodes avec lesquelles on pourrait peut-être rendre compte des différences entre les deux. La première serait de produire une édition annotée. Donc on pourrait employer des notes pour signaler chaque différence entre la version en anglais et la version en français. Mais on parlait des notes, mais il y a plusieurs types de notes. Il y a plusieurs possibilités, je pense. Les notes en bas de page, ce sont les plus conventionnelles, ce sont les plus normales, ce sont les plus répandues, c'est la solution la plus répandue. Mais quand même, si on observe les éditions qui existent maintenant, ça, ce n'est pas une solution qu'on prend souvent. Les éditions de Beckett sont même, on pourrait dire, sous-annotées. Il n'y a presque pas de notes. Beckett lui-même n'aimait pas trop les notes. Et le problème, je pense, ça, c'est que pour une édition qui veut rééditer Beckett, qui veut présenter à nouveau la trilogie, ça a l'air un peu académique. Et il y a tellement de différences aussi. Ce sont des différences subtiles, mais quand même, ce sont des différences qui méritent d'être décrites, qu'il y aurait une quantité presque abusive des notes. Ça prendrait la plupart de la page. Ça, c'est la mise en page serait presque cauchemardesque. Donc, j'ai décidé pas de notes en bas de page. Est-ce qu'il y a d'autres options? Bon. On pourrait faire des notes dans les marges, on pourrait mettre des notes dans les marges. Ça renvoyerait un peu au texte de Moyen-Âge. Et il y a une liaison entre le texte de Moyen-Âge et si on voit les manuscrits de Beckett, ça a vraiment l'air d'être des textes Moyen-Âge avec les textes les moins rédigés. Ils sont pleins de dessins, sont pleins d'explications marginales, sont pleins de détails, des variations, des commentaires. Et il y a des différentes éditions maintenant qui essaient de faire quelque chose comme ça. L'édition de Walden, publiée par Yale University Press en 2004, par exemple, Walden de Henry David Thoreau, a des notes dans les marges. Ce sont des notes énormes parfois. C'est évidemment un format un peu inusuel. Mais c'est une option qu'on pourrait